pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez,
toi de jouer. On ne s'endort pas sur le micro.
Alors ce soir, normalement, on doit vous parler du procès qui va avoir lieu à Limoges les 19 et les 20 mars, qui concerne la répression antiterroriste qui s'est abattue dans le Limousin le 15 juin 21 sur plusieurs personnes soupçonnées d'avoir provoqué des incendies pour dénoncer le déploiement du compteur Linky, puis aussi de la 5G. Alors, les chefs d'inculpation sont destruction et dégradation de biens par explosifs ou incendie commis en bande organisée.
Ça existe, ça ? Incendie en bande organisée ? C'est quand tu fais des barbecues, c'est ça ?
A été touché les véhicules Enervis et puis aussi les antennes TDF et Orange. Donc, il y a eu aussi une antenne militaire qui a été touchée. Donc, il y a atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. En fait, l'association de malfaiteurs, évidemment, est tracée d'inscription, signe ou dessin, n'ayant entraîné qu'un dommage léger. Alors, les peines encourues, c'est de 5 à 20 ans. Mais en fait, la peine maximale est de 10 ans, puisque ça s'est complètement dégonflé, puisqu'ils passent en correctionnel, ce qui fait qu'ils ne pourront pas avoir plus de 10 ans. De toute façon, ils ont, j'espère, moins. Alors, je crois qu'on a...
Ouais, alors, on va peut-être attendre deux secondes, voir comment techniquement ça se passe. On va effectivement parler du procès. C'est un procès qui a été amené à la suite d'une très longue instruction qui a vu se déployer vraiment un maximum de moyens d'enquête avec, comme d'habitude, dans la construction du sujet terroriste, la construction d'un narratif et d'un récit judiciaire, véritablement, où on dessine un personnage, en l'occurrence le terroriste, et on cherche des éléments pour remplir cette figure et pour peindre le tableau. Alors, je pense que le son en parlera mieux que moi, mais on retrouve dans ce tableau un vieil anarchiste espagnol, la directrice d'une école primaire, une mère célibataire menuisière, un ancien activiste des années 70, prof intervenant à l'université, qui va donc jouer évidemment le rôle de l'intellectuel dirigeant l'ensemble et manipulant l'ensemble des autres acteurs de ce feuilleton, et évidemment nimbé d'un soubassement idéologique puissant qui serait, alors on parlait pas à l'époque des co-terroristes, mais on avait une autre marotte du pouvoir, c'était l'anti-technologie, puisque on disait que c'était des gens qui étaient complotistes contre, tu l'as dit, la 5G, etc. Alors, c'est quoi en fait? C'est que à l'intérieur de ce pays et de cette société, il y a des tas d'individus et d'individus et de groupes et de collectifs qui portent une critique de la technologie, une critique des réseaux, une critique de ces technologies de transmission sous la forme de la cinquième génération de connexion et de transmission internet et satellitaire, et que certains d'entre eux et d'entre elles utilisent la méthode de l'action directe, qui est une bonne vieille méthode du mouvement ouvrier, telle que nous on les aime bien, c'est des bonnes vieilles traditions, hein, ça, c'est comme le sabotage, c'est comme le défilé, c'est comme les barbecues aussi, donc là en fait c'était une sorte de barbecue sans chasuble qui a un petit peu dégénéré. Et alors oui, le problème c'est que par accident, sur la l'une des antennes, il y avait une antenne militaire, mais ça c'est pas marqué dessus, hein, donc on n'était pas censé le savoir lorsque ça a pris, il y a eu transmission. Bon, voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh ben, c'est formidable ça. Ouais. C'est la surprise.
Qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend pas.
C'est quoi le sujet que vous voulez lancer?
Alors, on va lancer le truc du procès du 22 mars, du 15 et du 22 mars. Ok.
Ok, ça marche.
Allons-y.
Mais il n'écoutait pas ce qu'on
disait. À Limoges, les 19 et 20 mars 2026. De quoi s'agit-il? Deux personnes restent mises en cause de destruction ou dégradation du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes et d'association de malfaiteurs en rapport avec l'incendie de 8 véhicules d'Inedis et de 2 antennes relais de téléphonie mobile et de télévision.
Qui a fait cela? Pour le moment, les autorités ont ordre de ne pas nous parler. Le procureur a missionné la police judiciaire sur l'enquête. Une revendication est arrivée par courriel chez nos confrères du Populaire du Centre. Pêle-mêle, elle parle d'oiseaux tués, mais surtout de compteurs Linky, de nucléaire et de sabotage, en donnant la définition.
Le 15 juin 2021, les keufs déboulaient en grand nombre dans 6 lieux différents de Haute-Vienne et de Creuse. Une quinzaine de personnes subissaient alors des braquages à main armée, perquisitions ou interrogatoires de la part de dizaines de flics suréquipés, parmi lesquels la SDAT, sous direction de l'antiterrorisme, ou PPSIJ, peloton spécial d'intervention de la gendarmerie. Dans les médias, on apprend alors que l'enquête est liée à des dégradations matérielles ne mettant pas en danger les vies humaines, l'incendie de véhicules Enedis en janvier 2020 et l'incendie d'antennes de télé, radio, téléphonie à Car, au sud de Limoges, en janvier 2021. Les perquisitions sont longues et minutieuses. Elles ont lieu sous statut de témoins et de témoins assistés, avec des fouilles intégrales des maisons, des saisies de matériel informatique, des prises de notes sur les différents livres politiques et autres documents militants, des prises d'ADN et puis des interrogatoires. La police débarque chez des gens suspectés de rien pour ficher leurs lectures et leurs empreintes génétiques. Le coup de pression vise alors l'ensemble du milieu militant local, parmi lesquels une chorale militante de Limoges et le site mutu local, labog.info. Parmi les personnes arrêtées, nombre d'entre elles feront plusieurs jours de garde à vue et certaines sortiront avec plus d'un an de contrôle judiciaire. Le 19 et le 20 mars prochain, le procès de l'affaire dite du 15 juin se tiendra à Limoges pour les inculpés de l'affaire.
Grâce à nos amis de Canal Sud, vous allez pouvoir entendre les échanges qui ont eu lieu en Ariège lors d'une réunion publique pour appeler au soutien à ce procès.
Donc bonsoir, merci d'être venu. Nous, on est du comité 15 juin Limousin. On est là pour raconter un peu l'histoire, surtout dans la perspective du procès qui arrive au mois de mars. Le 15 juin 2021, différentes forces de police et de gendarmerie déboulent dans différents endroits du Limousin. Ces forces de l'ordre interviennent de façon très brutale et massive sur chaque endroit. C'est-à-dire que sur un même lieu, sur un même village, il pouvait y avoir une trentaine jusqu'à 60 policiers, gendarmes qui défoncent les portes, qui se trompent de maison, qui interpellent les gens au saut du lit, qui fouillent les maisons, embarquent du matériel. Certaines perquisitions ont pu durer la journée entière. Et ces personnes sont embarquées en divers lieux, gendarmerie, commissariat. Il y a eu entre 10 et 15 personnes visitées, 6 placées en garde à vue. Il y a eu tout de suite, à certains endroits, des mobilisations de la population pour intervenir. Pas partout. Il y a des personnes dans des villages plus isolés où il n'y a pas eu de soutien immédiat. Et puis, tout de suite, un rassemblement le jour même au commissariat. Et on se demande pourquoi ces camarades ont été arrêtés. Et tout de suite, constitution d'un embryon de comité de soutien. Petit à petit, donc, 3 des personnes vont être relâchées. Les autres vont presque aller jusqu'au bout des 96 heures de garde à vue prévues en cas de terrorisme ou de grand banditisme aussi. Et on comprend petit à petit de quoi il s'agit. Il s'agit d'enquêtes qui apportaient sur deux faits. Des incendies de véhicules d'Enedis qui ont eu lieu au début de l'année 2020 et l'incendie d'un ensemble d'antennes qui a eu lieu au début de l'année 2021.
Une revendication est arrivée par courriel chez nos confrères du Populaire du Centre. Pêle-mêle, elle parle d'oiseaux tués, mais surtout de compteurs Linky, de nucléaire et de sabotage. Ce n'est pas la première fois que cela arrive ici. En 2017, 21 véhicules avaient été incendiés sur le même site. Comme aujourd'hui, des inscriptions anti-Linky avaient été laissées. Même mode opératoire aussi pour l'incendie nocturne de véhicules de Vinci en 2016 ou de la gendarmerie en 2017, sans qu'il soit possible de faire un rapprochement entre tous ces faits.
Grâce à la mobilisation et grâce à la compréhension aussi quelquefois d'un JLD, d'un juge des libertés et de la détention, ne sont pas placés en détention provisoire. Il y a eu un appel du PROC, évidemment. L'appel a été gagné grâce à la mobilisation aussi locale pour que les personnes ne soient pas placées en détention provisoire. Par contre, elles ont subi dès le début un très lourd contrôle judiciaire avec des interdictions de se voir, des interdictions de se déplacer hors de leur département, obligation de pointage, bi-hebdomadaire au début. Et petit à petit, les avocats ont réussi à faire alléger petit à petit ces contrôles judiciaires, mais ça a été très très long. Le comité de soutien qui s'est créé dès le début a organisé des réunions publiques dès ce moment-là, l'automne 2021. On a commencé à réfléchir sur comment on pouvait défendre nos camarades par rapport à ces faits. Donc, c'est-à-dire, en même temps de la défense des personnes, réfléchir sur le pourquoi et réfléchir à l'engagement du comité de soutien dans une critique des technologies qui amène certaines personnes en Limousin ou ailleurs. Je rappelle que c'est une époque où il y avait énormément d'antennes qui brûlaient dans toutes les régions de France et d'Europe.
La semaine dernière, encore un pylône a été endommagé par les flammes. C'est le 6e dans le secteur depuis le mois de juin. Les enquêteurs recherchent d'éventuels pyromanes. En attendant, les habitants se retrouvent privés de portables. Stéphane Gaudry, Bernard Stemmer.
Une torche allumée à l'entrée de la forêt. Ce sont des habitants de Traubach qui ont découvert l'antenne relais en feu en rentrant chez eux samedi soir il y a 10 jours et qui ont immédiatement donné l'alerte.
Le grillage était effectivement forcé, au pied de l'antenne, il y avait à peu près une dizaine de pneus qui étaient en feu et puis donc qui reprenaient un petit peu sur le pylône, quoi.
Malgré l'intervention rapide des pompiers, l'antenne sera sûrement à reconstruire. Ce serait la 6e en quelques mois dans le Sungo. Groupe anarchiste, écologiste ou gilet jaune radicalisé, vandalisme, aucune revendication n'est pour le moment venue orienter l'enquête de gendarmerie.
pourquoi résister, à quoi on s'oppose. Un des aspects importants aussi, qu'on a constaté dès le départ, en apprenant comment avaient été surveillées les personnes, tous les moyens technologiques qu'on peut dénoncer parce qu'on dit c'est intrusif dans nos vies, eh ben effectivement, ils ont été utilisés. Les écoutes, évidemment, les moyens classiques, mais les balises, les keyloggers sur les ordinateurs, c'est-à-dire les systèmes ou appareils qui permettent d'enregistrer tout ce qui est tapé sur votre clavier. Bah, surveillance physique aussi, évidemment, des gens qui sont photographiés chez eux. Les pénétrations dans les logements des personnes en dehors de leur présence pour installer les systèmes, voire pour aller réparer un système qui a été installé et qui ne fonctionne pas. L'étude de comment s'est produite cette enquête nous amène aussi à renforcer notre critique de tous ces moyens technologiques de surveillance. Et donc de dire, mais on a raison, on a raison de se révolter contre tous ces systèmes, puisque on n'est pas libre de nos mouvements sans risquer d'être surveillé, etc.
Un simple appel sur votre téléphone portable et sans même que vous ne décrochiez, le logiciel espion est implanté. Le programme Pegasus de l'entreprise NSO n'a même plus besoin que l'utilisateur clique sur un lien malveillant. C'est une arme intelligente, elle s'installe dans les failles des systèmes d'exploitation. En prenant le contrôle du smartphone, elle a accès aux appels, messages, contacts et même aux applications sécurisées. L'entreprise privée NSO, qui a conçu le logiciel Pegasus, est israélienne. Elle aurait vendu à une quarantaine de pays, dont une dizaine sont des États autoritaires. Ils auraient établi une liste de près de 50 000 numéros. Parmi les personnes visées, environ 180 journalistes, de nombreuses personnalités politiques et des militants pour les droits de l'homme.
Voilà, moi je suis Marie-Claire, donc j'ai été arrêtée le 15 juin 2021 chez moi, à 6h du matin. Moi j'ai eu beaucoup de chance en fait, d'abord ils se sont trompés de maison, donc ils ont traumatisé...
Malgré tous leurs moyens de surveillance, ils sont capables de voilà. Se planter.
Et ils ont traumatisé mon voisin qui a été braqué au sol, enfin une horreur. Donc moi, en fait, je me suis réveillée en entendant hurler dehors chez moi. Et du coup, j'ai eu le temps quand même de me lever. Et bon, j'ai regardé par la fenêtre et là, j'ai vu des uniformes partout dans le village. Moi, j'habite un hameau dans une commune de 500 habitants. Des armes, le bélier, des cagoules, des gens... Voilà. Et moi, j'ai cru qu'il y avait un drame chez mon voisin, parce que j'entendais hurler chez mon voisin. Je me suis demandé ce qu'il y avait et tout. Et en fait, quand je suis sortie, il y a un mec de la SDAT, la sous-direction antiterroriste, qui m'a attrapé, qui m'a mis les menottes, qui m'a jeté sur mon canapé, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouf, il s'est rien passé chez mon voisin, tout va bien. Donc, je suis passée dans les tours. Après, je me suis dit, ouf, en fait, bon, je pensais que mon voisin était mort. Et après, je suis redescendue, du coup, et là, ils m'ont dit, bah voilà, vous êtes en état d'arrestation, garde à vue et tout. Et je suis pas. Mon cerveau, il s'est décroché. En fait, je suis pas remontée dans la panique. J'ai fait un décrochement. Donc, ça m'a sauvée, en fait. Parce que, après, j'étais spectatrice. Bien sûr, j'étais pas super bien, mais en même temps, j'étais extérieure à tout ça. Donc, ils ont perquisitionné toute ma maison. Je leur racontais même des conneries. Ils ouvrent le congélateur. Je leur dis, en fait, il n'y a pas de cadavre dedans. Enfin, j'étais déconnectée. Et en même temps, je me disais, oulala, ils vont me taper dessus. Il faudrait peut-être pas que je dise trop de conneries. Mais en même temps, j'étais déconnectée. Et ça m'a sauvée. Parce que sinon, je ne sais pas se retrouver comme ça. Enfin, bon, c'était affreux. Donc, la perquisition a duré hyper longtemps. Et beaucoup de chance aussi. Parce que quand j'ai pu mettre le nez dehors dans mon hameau, il y avait, je sais pas, 60 personnes qui avaient fait ta-ta-ta les téléphones et tout, et qui étaient arrivées et qui encerclaient ma maison et qui braillaient et qui m'ont dit « prends tel avocat » et machin, et enfin qui m'ont parlé. Ça a beaucoup énervé tous les flics qui ont dit « ah, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont rien à faire. Moi, à cette heure-là, je suis au boulot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont que ça à foutre de venir à 6h du matin. » Mais en tout cas, moi, c'était... énorme, quoi. De voir tous ces gens, je me suis dit, ah, waouh, c'est fort, c'est très fort. Et ça fait la différence aussi. avec des gens qui se sont retrouvés tout seuls, sortis du lit. Ça n'a rien à voir, en fait. Bon, après, voilà, j'ai fait 4 jours de garde à vue. Moi, j'ai gardé le silence en garde à vue. Alors, pareil, un truc qui m'a aidé, c'est bête, mais c'était à l'époque où on avait encore un masque pour le Covid. Bah, derrière le masque, c'est super facile de, je sais pas, de grogner, de serrer les dents, de faire des grimaces, je sais pas quoi, et ça se voit pas. On peut ne pas parler, c'est plus facile aussi. Moi, ça m'a aidé. Je pense que ça m'a aidé. Bon, c'est vraiment des hasards. Hein. Alors, moi, j'étais directrice de l'école de mon village. J'étais à 3 semaines de la retraite quand ils m'ont arrêtée. Quand je suis sortie de garde à vue, bon, j'étais un peu perdue. Je me suis quand même arrêtée. Je voulais retourner au boulot le lundi. Puis il y a des gens qui m'ont dit non, mais là, t'es pas en état, en fait. Voilà. Donc, je suis allée voir un toubib, je me suis arrêtée et tout. Et après, j'ai été convoquée par l'inspecteur d'académie qui m'a suspendue. Et ça, je pense que c'est la pire violence qu'on pouvait me faire. Pardon, je suis un peu émue de dire ça. Donc j'ai été suspendue de mes fonctions, interdiction de remettre les pieds à l'école, 3 semaines avant ma retraite. Suspendue à titre conservatoire, c'est-à-dire que je gardais mon salaire, hein. Bon, pas l'indemnité de direction, pas le machin, nanana. Donc j'ai perdu quand même un peu, mais pas trop. Oui, c'était pour me protéger. Il m'a dit, mais c'est pour vous protéger. Sans déconner. Et je suis quand même allée à la fête de l'école, j'avais pas le droit d'y aller, mais j'y suis allée parce que c'était important pour tout le monde. Moi, j'ai eu 1 an et demi de contrôle judiciaire. Au début, je pouvais pas sortir de mon département. Alors moi, j'habite un petit département et j'habite à la jonction de 3 départements. Et j'habite vraiment à, 3 kilomètres de la Haute-Vienne et 10 de la Corrèze. Et j'avais pas le droit de sortir de mon département. Donc il a fallu faire 10 000 démarches pour après pouvoir aller partout, sauf en Haute-Vienne, pointer, plus pointer, voir des gens, plus voir des gens, enfin voilà. Et donc j'ai eu 1 an et demi de contrôle judiciaire, après ils m'ont lâché. 4 ans après les arrestations, donc au 1er août 2025, j'ai obtenu un non-lieu de la justice. Donc ça veut dire que je ne vais pas passer en procès, ça veut dire qu'en fait, ils n'avaient pas assez d'éléments. Moi, ils m'ont attrapé, en fait, comme disait Antoine, pour faire du renseignement. Moi, je ne suis pas sur Limoges, je suis sur le plateau de Millevaches. Je connais beaucoup de gens sur le plateau de Millevaches, ça fait presque 40 ans que j'y suis, j'ai fait toute ma carrière là-bas. Et je connais beaucoup de gens autour de Limoges et dans les milieux militants. Je faisais le pont. Avec mon profil et tout, ils se sont dit, ça va être super, quoi. On va tout savoir. Et puis pour faire pression aussi sur une des inculpées avec qui j'avais une relation amoureuse. Donc en fait, ça c'était parfait aussi parce qu'il l'avait mise là en cellule et moi là. Et quand elle passait, elle voyait que j'étais aussi en garde à vue. Pour faire pression sur les gens, c'est super.
Elles en ont assez d'être bloquées l'une en Creuse, l'autre en Haute-Vienne, ceci avant même un jugement dont on n'a pas la date. 1 an après les 6 arrestations musclées dans l'affaire des Cars et Enedis, Anne, menuisière dans les Monts-de-Blon, et sa compagne Marie-Claire, ex-institutrice, ont décidé de parler.
Je me retrouve enfermée en liberté. Suite à l'appel du procureur, je ne peux plus sortir du département, et Marie-Claire non plus du sien. En plus de cela, elle ne peut pas me fréquenter. Qu'on interdise 2 personnes qui s'aiment de se voir, soi-disant, parce qu'il y aurait une complicité ou des risques de fuite ou je ne sais pas quoi, si on se voyait, c'est plus possible.
Et puis surtout, je fais partie de la mise en scène pour effrayer, faire pression sur tous les réseaux militants de gauche, écolos. Et ça tombe bien en plus, j'habite sur le plateau de Millevaches.
Tout le week-end, dans le secteur des Moutiers, le comité dit du 15 juin, date des arrestations, organise des actions de soutien aux mises en examen. Il demande notamment à la justice d'avancer enfin.
On m'a dit une fois un truc, je pense que c'est très très parlant. Quand on est en garde à vue, on est devant des gens qui sont comme des champions d'échecs. Et nous, on sait à peine dépasser les pièces. Si on n'accepte de démarrer la partie, on est foutu. Donc en fait, le silence, ça sert aussi à ne jamais, jamais aller dans un jeu qu'on ne connaît pas et surtout où on va jouer sa liberté, sa vie et éventuellement celle d'autres avec des mauvais joueurs.
Rien à déclarer, rien à déclarer. Rien à déclarer, rien de rien à déclarer.
Ça fait.
Rien à déclarer, rien de rien à déclarer.
Hey.
Rien à déclarer, rien de rien à déclarer.
En garde à
vue. Rien à déclarer, rien de rien à déclarer.
Au commis.
Rien à déclarer, rien de rien à déclarer.
Même au médecin.
Rien à déclarer, rien de rien à déclarer.
Bah voilà, moi je bascule là dans le comité de soutien maintenant, puisqu'ils m'ont lâché, et que je vais pouvoir enfin du coup me déplacer, aller faire les réunions, aller témoigner et être active, parce que il y a un côté aussi frustrant de savoir que tout le monde est en train de s'activer, qu'il y a des tas de gens qui sont là, qui font des actions, qui nous soutiennent financièrement aussi, parce que ça coûte une blinde des avocats, et de pas pouvoir bouger. C'est assez terrible, en fait. Et il faut savoir que, voilà, moi j'ai un non-lieu, mais le non-lieu, ça veut dire qu'il me lâche, hein. Mais c'est sans excuse, sans indemnité, sans rien. En France, si on ne va pas en prison, on a droit à aucune indemnité. Donc ça veut dire que les frais d'avocat, ça veut dire que la garde à vue, ça veut dire la presse. Quand on dit la directrice de l'école de Gensio, tout le monde sait. Qui sait ? Enfin, je veux dire, c'est pas très anonyme. Voilà, tout ça, en fait, c'est pas grave, quoi.
Peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être pas encore. Les 19 et 20 mars prochains, un important procès se tiendra à Limoges. Les inculpés du 15 juin 2021 sont accusés d'avoir incendié pas moins de 8 véhicules Enedis et 2 antennes relais. Pour ça, comme souvent, on invoque l'association de malfaiteurs. Et comme souvent aussi, on utilise les moyens de l'antiterrorisme à la fois pour l'enquête et les arrestations, alors même que ces sabotages n'ont mis en danger aucune vie humaine. On le sait, l'antiterrorisme permet de suspendre le droit commun, de s'affranchir de toutes les règles protégeant encore quelque peu la vie privée, et d'utiliser des moyens techniques perfectionnés pour siphonner des renseignements. C'est même son rôle principal, accentuer le fichage, comprendre les idées circulant dans la société et les liens entre les groupes contestant l'ordre établi. Ne nous laissons pas terroriser. Poursuivons aujourd'hui dans cette voie en soutenant les inculpés du 15 juin. Ils et elles vont avoir besoin de relais, de tribunes, qu'on parle de leur histoire et que leur procès devienne celui d'un monde qui ne veut pas mourir. Pour mieux comprendre les enjeux, voici leur communiqué.
Nous, les inculpés, souhaitons que le procès de Limoges soit celui des technologies du numérique. Les compteurs Linky et les antennes 5G sont d'ores et déjà déployés sur tout le territoire français. Un épais nuage électromagnétique est en train de recouvrir le monde entier. Les firmes multinationales multiplient les actions de lobbying auprès des gouvernements et dans les commissions officielles de protection de la santé publique. Pourtant, les études menées par des scientifiques indépendants tendent à prouver la dangerosité des rayonnements électromagnétiques. Mais elles sont ignorées par les industriels qui affirment que cette dangerosité n'est pas prouvée scientifiquement. Cette manœuvre n'est pas nouvelle. Les industriels l'ont déjà utilisée pour le tabac, l'amiante et la dioxine, par exemple.
En attendant, ils se frottent les mains devant l'ampleur de l'arnaque des objets connectés. Vendus une fortune, ces objets sont à la fois des émetteurs d'ondes, des moyens de surveillance légaux et la cause d'un gaspillage phénoménal des ressources naturelles. Nous assistons à la mise en orbite de milliers de satellites et au développement à marche forcée de l'intelligence artificielle. Un contrôle généralisé de la population se met en place à une vitesse stupéfiante. Le principe de précaution doit être appliqué de façon rigoureuse. La santé des personnes et la préservation de l'environnement ne doivent plus être sacrifiées sur l'autel du profit. La situation de notre planète et des organismes vivants qui l'habitent est de plus en plus compromise par l'extractivisme et l'augmentation vertigineuse de la consommation d'énergie. Le réchauffement planétaire, la destruction de la biodiversité et les atteintes de toutes sortes à l'environnement entraînent une série de catastrophes climatiques, sanitaires et humaines. La désobéissance civile est donc vitale. Pourtant, elle est souvent réprimée au nom d'un dogme antiterroriste qui cache mal la terreur réelle que les gouvernements sont prêts à exercer. Soyons solidaires de toutes celles et ceux qui cherchent à arrêter cette machine infernale. Mobilisons-nous dans la perspective du procès de Limoges qui aura lieu les 19 et 20 mars 2026. Nous espérons que cet appel sera discuté, repris et amplifié.
En conclusion, on avait envie de vous dire que le soutien aux inculpés du 15 juin concerne toutes et tous. Il est à la croisée des luttes écologiques, anti-industrielles, anti-militaristes et contre le déferlement numérique sur nos vies. Et n'oublions pas, encore et toujours, contre la 5G et son monde, contre l'État policier et ses méthodes, pour la liberté de nos camarades.
Je suis le premier à moquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça. Mais moi j'ai un espace Renault, car j'ai déjà un marmot. Moi j'ai un frigo high-tech, où je peux ranger 6 pastèques. Moi j'ai une Honda 500, que même je peux faire du 200. Moi j'ai un autoradio étanche à l'eau, 3 télé à écran plat, parce qu'il y a 3 chambres chez moi, un PC pour elle et moi.
Quand on se Facebook, c'est sympa.
Un troisième pour la gamine, bah oui, quand même, c'est plus intime. Une ribambelle de disque dur en cas de coup dur, car comme dit l'autre,
si le client est roi, il a le droit d'être le roi des.
Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête?
Le roi des.
Moi j'ai mis l'appli iPhone, rien que pour la déconne. Mais j'ai pas encore l'iPad, quoi qu'à crédit c'est peut-être jouable. Moi j'ai un 4x4 bleu gris depuis que j'habite à Paris. Moi j'ai la clim dans les toilettes,
depuis je me sens mieux dans ma tête.
147 films récents que je regarde pas, j'ai pas le temps. Tous les derniers best-sellers conseillés par ma belle-sœur. Le live intégral de Johnny en Blu-ray haut défini sur mon bel écran plasma. Le Stade de France chez moi. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Na na na. Je suis le premier à moquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça.
Mais moi j'ai une assurance vie, avec forfait illimité, pour le jour où vous serez en deuil.
Que tout ça tienne dans mon cercueil,
jusqu'au bout, jusqu'au trognon.
Car c'est à moi,
jusqu'au bout, jusqu'au trognon.
Rien qu'à moi,
jusqu'au bout.
Car c'est à moi, la 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 la.
Jusqu'au trognon, soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. On ne trouvera jamais le temps de faire la révolution.
Soyons fous.
Alors évidemment, on vous donnera des nouvelles. Bon, c'est un procès qui va durer 2 jours, donc ça va quand même être assez... assez rapide. On espère qu'on pourra avoir des acteurs et des actrices du procès, en tous les cas nous donner des éléments sur comment ça se déroule, mais on vous en parlera. Et puis on va avoir une pensée avant de passer à autre chose, une pensée pour notre camarade Christophe.
Ouais.
Qui a été un acteur très longtemps, un compagnon de route très très fidèle, très très ferme, et qui d'ailleurs était concerné au premier chef par cette histoire par cette histoire merdique, et à se demander même si l'impact que ça a eu sur lui n'a pas été la conséquence de son décès, la cause de son décès prématuré. Bon, enfin, on va continuer dans les pas bonnes nouvelles. En tous les cas, on va essayer de vous proposer une petite analyse et une petite réflexion sur les événements de ces derniers jours, parce que si vous êtes forcément familier de l'Égrégore, vous avez dû vous demander pourquoi on vous avait pas parlé
la semaine dernière.
De la semaine dernière de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé à Lyon et de ce qu'on nous on en pensait. Alors la première chose, c'est que dans cette société de l'immédiateté, c'est toujours pénible de devoir réagir à des événements qui sont parfois surmontés en pièces par rapport à leur réelle importance. importance dans l'histoire des gens, du quotidien, des individus et de l'humanité. Et puis, il faut aussi être en capacité de prendre du recul pour rendre les choses intelligibles et pour essayer d'avoir, comment dire, en tous les cas, un point de vue renseigné et affirmé. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un avis sur tout, mais c'est pas suffisant d'avoir surtout un avis. Ça nous a semblé intéressant, après une semaine, qu'on a pu avoir quelques renseignements, puis surtout voir ce qui se passait, de porter un regard sur cette semaine, qui est peut-être une semaine historique, quand on la regardera avec le recul. Je m'explique, parce que aujourd'hui on a des crise du capitalisme et des rapports de force internationaux qui sont en train de s'approfondir. Ceci étant, l'intensification des luttes des classes va aller en s'accroissant. On a une bourgeoisie qui pense qu'avec cette nouvelle assise idéologique, en gros, la réaction plus la technologie, elle n'a absolument plus besoin de faire de compromis. Et donc, elle est à l'offensive, à la fois à l'offensive vis-à-vis de nous, c'est-à-dire de nous supprimer tout ce qui nous permettait de survivre ou de surnager dans un espace un peu moins merdique que celui d'avant. Et puis elle est sur la défensive parce qu'elle sent bien que les contradictions, à un moment, il faut qu'elles explosent et il faut qu'elles sortent, donc il y a nécessité de se défendre. Alors voilà, ça c'est dans le cadre global, hein, donc on a une internationale de la réaction, hein, qui est capable de se donner des coups de main ou de s'appuyer les uns les autres, avec en tête évidemment l'impérialisme américain et son duo magnifique Jed Evans et Donald Trump, mais il y a aussi évidemment à l'intérieur de l'Europe des tendances un peu plus lourdes, c'est-à-dire la Pologne, hein, ou alors la Hongrie. De Orban, hein, on vient de voir aujourd'hui l'opposition de la Hongrie à la procédure européenne pour imposer des sanctions à la Russie. Alors c'est pas qu'on est particulièrement fan de la Russie, hein, mais on voit bien les relais d'influence. Alors tout ça c'est pas pour noyer le poisson, mais c'est pour dire que cette tendance, elle est générale. Tendance à la réaction, tendance à la sortie d'éléments réactionnaires, fascisants, autoritaires sur le devant de la scène, c'est une tendance générale qui est appuyée les uns les autres et qui sera intéressant de voir pourquoi on parle en termes de structure comme ça. Alors après, si on parle en termes d'événements un peu plus réels et concrets, il y a deux choses quand même à signaler qui sont importantes pour vous dire l'intérêt de faire de la comparaison en histoire, de l'analogie, puisqu'en fait en histoire on fait que ça, hein. On fait de l'analogie, on rassemble des éléments, on regarde ce qui va pas, ce qu'on fait. Il y a deux choses super intéressantes à noter. Alors en février 1936, il y a Jacques Bainville, c'est un historien réactionnaire et c'est surtout un des leaders de l'action française, qui décède. Et donc il y a un cortège funéraire avec les partisans de l'action française qui sont là, dont leur pointe la plus remuante, qui est les Camelots du Roi, qui étaient donc des gens dont la fonction était de cogner et qui était un peu la jeune garde de l'action française et qui avait surtout des cannes, qui se battaient avec la canne et qui étaient très hautains, très stylés, etc., etc. Enfin bon, c'est des cogneurs. Et donc ce cortège funéraire croise la voiture de Léon Blum, hein, pas très loin du boulevard Saint-Germain à Paris, se rue sur Léon Blum, casse la bagnole et le lynche. Léon Blum va passer un très sale quart d'heure et finalement va être sauvé par des ouvriers du bâtiment qui sont là, qui ouvriront les portes d'un immeuble dans lequel il pourra se réfugier et il sera soigné. 90 ans après, donc en 2026, l'Assemblée nationale fait une minute de silence pour un militant de l'Action française ou un ex-militant de l'Action française, mais en tous les cas c'était son corpus idéologique. Voilà, ça c'est la première comparaison. Deuxième comparaison, le 21 février 1944, 25 résistants sont fusillés au Mont Valérien Parmi eux, il y a trois lycéens de Saint-Brieuc qui avaient monté un micro-réseau de résistance, et il y a 22 membres du groupe qu'on appelle de la Fiche Rouge, qui sont francs-tireurs partisans et de la MOI. La 24e, Olga Banchi, sera décapitée en Allemagne. On a des photos de cette exécution. C'est peut-être les seules photos qu'on a d'une exécution au Mont-Valérien. Donc le Mont-Valérien, c'est côté de Paris, hein, dans le bois de pas très loin. Il y a un fort, et c'est là que se faisaient les exécutions des résistants, principalement par les forces nazies occupantes. 82 ans plus tard, hein, le préfet des Côtes d'Armor interdit la manifestation en hommage aux trois lycéens, manifestation qui avait lieu tous les ans. Et le ministre de l'Intérieur autorise un défilé néo-nazi à Lyon, capitale de la résistance, puisque ça sera le lieu de siège et de l'organisation du mouvement uni de la résistance et du Conseil national de la résistance par Jean Moulin. Voilà, il faut dire qu'il y a deux ans, Manouchian était rentré au Panthéon. C'est peut-être le fameux en même temps macronisme, nous n'avons pas compris, c'est-à-dire une minute pour la résistance, une minute pour les nazis. Alors voilà, donc ce défilé, il faut aussi le remettre en place, hein. On a parlé de 3000 personnes, avec des gens venus de l'étranger, avec un soutien parfois même d'État étranger. En l'occurrence, vous avez certainement vu les déclarations d'Italie, déclarations des États-Unis, qui se disaient intéressés par l'affaire et l'histoire de cette mort. C'est finalement assez minable.
Oui, c'est minable, complètement.
Quand on regarde par rapport au barouf qu'on a eu peu
barouf
de semaines.
Barouf médiatique incroyable.
Incroyable. Et donc, peut-être qu'on va laisser ça de côté. Alors, évidemment, c'est quand même incroyable de penser qu'on puisse organiser une manifestation de néo-fascistes, néo-nazis, païens, catholiques, intégristes, même pas sûr qu'ils soient tous d'accord entre eux, peut-être que s'ils étaient restés un peu plus tard, ce serait foutu sur la gueule. Évidemment, on se réjouit que, comme ils étaient aussi sous l'œil des médias et de la police, il n'y ait pas eu de débordements, à savoir non pas des débordements sur les commerces, c'est pas à ça qu'on pense, mais clairement, avec ce genre d'individus, c'est clairement des ratonnades, hein, qui risquent de se passer. Donc là, il n'y en a pas eu, donc en tous les cas, à notre connaissance. Donc ça, c'est pas mal. Mais remontons le signe un peu plus loin et regardons ce qui se passe. Donc ce qui se passe, c'est que donc il y a une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan qui a lieu à l'IEP. Ce jour-là, à l'IEP, il y a plusieurs conférences, hein, puisque visiblement le jeudi, c'est le jour des conférences à l'IEP, l'Institut d'études politiques de Lyon. Il y a une conférence de Guillaume Ancel, hein, sur la guerre. Guillaume Ancel, c'est un officier qui écrit c'est un ancien officier de l'école de Saint-Cyr qui écrit sur la guerre, et puis Stéphane Audouin-Rouzon qui est un historien spécialiste de la Première Guerre mondiale et qui lui aussi faisait une cohérence là. Et comme c'est souvent le cas lors de réunions de gauche ou sur la Palestine ou etc, il y a une partie des collectifs réactionnaires ou opposés ou sionistes qui se sont fait une pratique d'organiser soit de contre-manifestations ou soit des rassemblements ou des contre-rassemblements, des happenings, soit dans le but de créer du trouble à l'ordre public et donc d'empêcher cette expression de venir, soit de susciter des violences ou de faire de la communication vis-à-vis de ça pour pouvoir justement passer pour des... Alors ce sont des groupuscules, hein, puisqu'en l'occurrence Némésis représente moins d'une cinquantaine de personnes, hein. Alors c'est un groupe qu'on qualifie de fémo-nationaliste, qui est un concept qui a été élaboré ces dernières années pour en fait dire des gens qui utilisent la cause des femmes à l'extrême droite pour pouvoir déverser leur dégueulis réactionnaire. Faut quand même savoir que donc Némésis, donc la plupart des cadres sont issus auparavant de jeunesse identitaire, de génération identitaire, pardon. Je le précise parce que c'est important en termes de communication, hein. Génération identitaire a été un groupe qui était très habile qui misait principalement son action là-dessus. Et donc, c'est un groupe communautaire blanc, en fait, hein, suprémaciste blanc, puisque sur leur site, vous pouvez voir leurs goodies qui proposent de remigrer les étrangers, voire les fils d'étrangers, voire peut-être même ceux qui sont pas étrangers mais qui ont des gueules d'étrangers. Donc on parle de déportation, hein, là, clairement, avec ce nouveau concept de remigration, et qui se propose d'expulser les violeurs sous OQTF, puisqu'elle pense que les personnes qui sont frappées d'OQTF sont des dangers pour les femmes. C'est à noter qu'on ne dénonce pas les violeurs blancs, hein, ou des hommes de 50 ans, et que, surtout s'ils sont catholiques, voire même s'ils sont prêtres, puisqu'on le répétera jamais assez, 8 femmes victimes de violences sexuelles ou de viols sur 10 connaissaient leur agresseur. Le mythe du violeur dans le parking le soir, ce sont des choses qui existent. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est minoritaire dans l'ensemble des viols. Mais pour ça, il faut se baser sur des faits. Et évidemment, ce ne sont pas des gens qui se basent sur des faits, ce sont des gens qui font de la politique. Donc, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que cette fois-ci, ça a fonctionné. C'est-à-dire que l'incident qui pouvait avoir eu lieu de manière plutôt faible au cours de ces dernières années, cette fois-ci, il y a eu un véritable affrontement, ce qu'attendait évidemment Némésis, ce qui est aussi compréhensible dans la dimension de la ville de Limoges, de Lyon, puisque à Lyon, il y a eu depuis ces dernières années des centaines et des centaines d'agressions à caractère fasciste, xénophobe, raciste, ouais, etc. Et que donc, il y a des Lyonnais qui se sont organisés pour pouvoir essayer de respirer par rapport à cette situation pesante, quoi. Complètement pesante et de mise en danger par rapport à des groupes qui pouvaient organiser les manifestations, des réunions, etc. On parle pas dans le vent, hein. On parle de, en l'occurrence, l'année dernière, une projection d'un film qui reste somme toute très par un groupe de syndicalistes et de jeunes turcs et kurdes, il y a eu un tabassage avec des coups de poing, des coups de couteau, hein. Donc c'est quand même ce niveau-là, quoi. Donc cette fois-ci, il y a eu un décès lié à la baston. Et donc, pendant 48 heures, peut-être même 72 heures, on a eu ce narratif de Némésis, qui a été évidemment complètement suramplifié par les moyens mis à sa disposition, donc en gros c'est Bolloré, qui donc a présenté les choses avec des noms, avec des images, avec un récit, dont malheureusement l'essentiel a pris, puisque d'une part on a fabriqué un sujet, donc un sujet qui est ce jeune garçon qu'on désormais, c'est un concept, hein, on le nomme par son nom, son prénom, Quentin. Est-ce que vous êtes pour Quentin? Est-ce que vous êtes contre Quentin? Etc, etc. Donc, tu vois, le fait de créer dans le spectacle une image et un personnage, ce Quentin de Ranque, moi je l'appellerai pas par son prénom, je le parle par sa fonction, c'est un fasciste. Alors, quelle couleur, quelle figure, quelle origine de fascisme, c'est comme le port salut, hein, c'est normalement c'est marqué dessus, mais c'est pas sans port, les fascistes, hein, y en a plusieurs. Donc là, on est sur quelque chose de catho-tradi, hein, certainement royaliste. Hein. Donc c'est pas forcément du néo-nazi, c'est pas des païens, là on est quand même sur Academia Christiana, donc c'est un groupe qui a pour vocation à fonder des cadres de la future société, et puis donc une filiation de l'Action française qui a pas trop aimé le fait que Némésis s'empare de leurs militants, puisque l'Action française, c'est historiquement l'antirépublicanisme, l'antisémitisme et la contre-révolution. Hein, faut rappeler que, en l'occurrence, Charles Maurras, qui est un écrivain apprécié de notre président de la République, appelait à fusiller dans le dos Léon Blum, et qui a été condamné à l'indignité nationale en 1946. Et donc, vraiment, ils n'ont pas trop aimé que Némésis récupère leur militants, puisque Némésis, donc le groupe d'extrême droite d'Alice Cordier, qui est à l'origine de ça, a des positions très sionistes, très pro-sionistes, va accompagner le groupe Nous Vivrons, par exemple, qui est venu perturber à plusieurs reprises la marche du 8 mars ou d'autres conférences de gauche, et donc les a traités de judéo-serviles, ce qui, pour eux, est une des insultes les plus importantes dans leur vocabulaire. Donc le problème, c'est que ce narratif a pris assez vite, et qu'on a mis donc en relation un groupuscule d'extrême droite pour la déportation, qui raconte n'importe quoi, puisque au départ on savait pas si ce type était membre du service d'ordre, si c'était un ami qui était là, un mec qui passait, ou quelqu'un qui était venu pour le protéger, alors que la famille dit ben non, notre fils il est pas agent de sécurité, il a rien du tout, etc., etc. Donc pour faire un service d'ordre, c'est une fonction politique, un service d'ordre. Ce n'est pas que des gros bras. Alors, ça peut aider d'avoir des gros bras quand on est service d'ordre, mais un service d'ordre, ça a un rôle politique. Ça a un rôle de gérer une foule, assurer la sécurité d'un groupe, remplir une mission ou une fonction, etc., etc. Là, c'est pas un service d'ordre puisqu'ils étaient six. Là, ce qui s'est passé, c'est que leur copain, il était à l'autre bout de la rue et il attendait qu'il y ait une réaction pour pouvoir faire une action derrière. Donc, clairement, il y a eu un guet-apens. C'est pas, faut pas, quand on voit en plus les lieux, il y a un tunnel au bout, donc il y a clairement eu un guet-apens. Mais quand on est dans un guet-apens et qu'on fait une baston, c'est sûr que quand on a 23 ans et qu'on apprend à faire des chansons, des chants grégoriens, faut se donner les moyens de ses ambitions, quoi. C'est pas un jeu. La violence, c'est pas quelque chose qui se joue comme ça. Donc clairement, la responsabilité de Némésis, elle est totale dans la mort de leurs camarades, puisque c'est eux qui provoquent cette situation et c'est eux qui créent les cadres pour qu'il y ait des bagarres. Donc on se retrouve avec ce groupe-là et de l'autre côté, un signe d'égal avec un groupe politique qui a des élus à l'Assemblée nationale, qui s'appelle la France Insoumise, dont on pense ce qu'on veut, et chacun est obligé de se déterminer entre ces deux choix. Mais ça n'a absolument rien à voir. Qu'est-ce que c'est que cette défaite culturelle, quand même, d'avoir une comparaison entre ces deux objets-là? Enfin, c'est comme si on prenait n'importe quel sous-groupe néo-nazi de merde par là et qu'on lui donnait l'antenne pendant une semaine et qu'on posait la question après. Alors finalement, est-ce que vous pensez à l'inégalité des races? Est-ce que c'est quand même une défaite culturelle et politique vraiment terrible. Et la difficulté, l'horreur, c'est que visiblement l'État, la bourgeoisie, dans son hypocrisie et dans son avidité à vouloir cartonner et à vouloir imposer tout ce qui peut, tout ce qui est possible pour pouvoir délégitimer toute forme d'opposition et écraser toute forme de contestation, qu'elle soit politique et ou sociale, s'est emparé de cet élément pour pouvoir déployer son récit, son action, se doter d'outils qui seront peut-être dans le futur des outils voués à cadenasser le débat public, à cadenasser la contestation sociale par des outils juridiques. Et évidemment, comme des vautours et des charognards qu'ils sont, se sont empressés de dépecer le corps de ce pauvre abruti là, de grenouille de bénitier, pour pouvoir éventuellement sauver leurs fesses lors des prochaines municipales, voire peut-être des prochaines échéances électorales. Et plus que le commentaire à avoir sur l'antifascisme, l'anti-antifascisme, la violence, etc., qui sont des choses dont on peut discuter, ce qu'il faut analyser, c'est cette partie-là. Ne vous faites pas avoir sur le débat de est-ce que on s'en fout de ça. Il y a des choses à dire, mais c'est pas important. Le seul fait politique intéressant là-dedans, il y a plein de choses à dire, on se le dira, mais entre nous, c'est que l'État, par la voix de Macron, de Darmanin, de Nunez et de ses affidés, s'est engouffré dans la brèche pour pouvoir se donner de l'oxygène, encore un petit peu de temps. Tu sais, c'est un peu comme le coyote. Quand il courait derrière Bip Bip, c'est des gens qui sont déjà dans le vide et qui continuent à courir, et tant qu'ils ne sont pas regardés en dessous, ils ne tombent pas. Mais là ils ont encore gagné quelques mètres et quelques secondes. Évidemment, tout ça permet aussi de masquer la politique de déglingos, parce que pendant l'horreur, les affaires continuent. Et les affaires, c'est quoi? C'est le vote de la vidéosurveillance algorithmique qui vient d'être adoptée, une horreur mais vraiment incroyable, la nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, la révélation par Le Monde et l'AFP de cette note qui stipule que 13 000 millionnaires ne paieraient pas d'impôts sur le revenu, voire des impôts négatifs. Alors, c'est pas des millionnaires en revenus, c'est des millionnaires en patrimoine. Mais bon, pour être millionnaire en patrimoine, faut avoir deux maisons à l'île de Ré. Hein. Pas une, mais deux maisons à l'île de Ré. Et on rigole, mais c'est terrible, parce qu'à l'intérieur de ces foyers fiscaux, on parle de 13 000 personnes qui possèdent un foyer fiscal, un patrimoine immobilier supérieur à 1 million d'euros. Il y aurait 2000 à 3000 personnes qui auraient un patrimoine supérieur à 50 millions d'euros. Il y aurait 500 à 1000 personnes qui auraient un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Et il y a un foyer fiscal, j'ai pas le nom, qui possède un patrimoine immobilier à 150 millions d'euros. Vous voyez ? Possède en bien propre 150 millions d'euros et ne paye pas d'impôts sur le revenu.
Incroyable.
Ça, honnêtement, on devrait tous être dehors pour aller chercher ce mec ou cette nana ou ce couple ou ce foyer fiscal et avoir les noms. 150 millions d'euros. Ça représente, ces 13 000 foyers fiscaux, une rentrée de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. S'ils étaient assujettis à l'ISF, ouais. Hein, donc même pas à des trucs de fou, hein, mais ne serait-ce qu'à l'ISF, ça représenterait plusieurs centaines de millions par an. Je vous rappelle qu'on a supprimé les APL pour les étudiants étrangers non communautaires. Ça représente une économie de 180 millions d'euros par an. Voilà. Donc voilà ce qui se passe dans ce pays, voilà ce qui se passe dans cette société. Alors on aura l'occasion de revenir là-dessus, parce que comme vous le voyez, on a beaucoup de choses à dire en fait.
ce qui est remarquable quand même, c'est l'attitude de Hollande, des écolos. Incroyable.
Faut toujours le rappeler, hein, le fascisme, il arrive toujours par la social-démocratie. Toujours.
Toujours.
Donc on est vraiment dans un lâchage en race campagne. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est que en termes de déconnexion, ils n'ont pas très bien compris ce qui était en train de se passer dans le pays. Et je crois que on va avoir des surprises.
Quelle belle blague ! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron ?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes-Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Radio Primitive.
Faites votre radio vous-même.